La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Bon.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur, vous êtes bien connectés sur la radio sans concession.
Bonjour à tous et bienvenue dans Décibel. Aujourd'hui, je reçois une invitée de marque. Bonjour Gaëlle, ravie de te recevoir aujourd'hui.
Hello tout le monde, bah merci à toi. Et coucou à tous les auditeurs.
Si je contextualise un petit peu, tu as commencé en 2010 ta carrière entre guillemets en solo pour ensuite rencontrer tes musiciens. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision ?
Alors la décision de lancer une carrière solo, c'est ça ou de faire de la musique ? Les deux.
Les deux.
Bah écoute, moi j'ai été vachement influencée quand j'étais jeune et c'est un album de Johnny Lane que j'ai découvert quand j'avais 12 ou 13 ans qui s'appelait Lie to Me, qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique. Quand j'ai écouté cet album, je me suis dit waouh, quand j'ai écouté cette voix, cette guitare, je me suis dit oh là là, c'est le métier que je veux faire. J'écoutais vachement de musique déjà quand j'étais toute petite. J'avais vachement d'influence et tout ça. Et puis, au fil du temps, j'ai appris la guitare, j'étais dans une chorale de gospel. Et puis j'ai rencontré des musiciens avec qui on faisait des groupes et tout ça. Et puis, à chaque fois, les groupes, ça marchait pas. À chaque fois, ils avaient d'autres priorités et tout ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais pas attendre qu'on vienne me chercher. Je vais pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais faire mon projet toute seule, guitare-voix. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rencontré après des gens super. J'ai rencontré Neil Black, avec qui j'ai fait mon premier album. Et du coup, l'aventure, elle a commencé comme ça. En 2010, on s'est rencontrés à la suite d'un concert. Et puis, en 2011, j'ai sorti mon premier album. Voilà.
Yesterday's Shadow, et du coup, ça a percé même jusqu'au Canada. Est-ce que tu pensais que ça irait aussi loin ?
Mais alors, pas du tout, parce qu'en fait, à la base, cet album, on a enregistré, on n'avait que 5-6 titres, et avec Neil, on s'est dit, bon, on va enregistrer des titres, on va voir, et puis on était en studio, puis on s'est dit, ah bah tiens, on va composer d'autres morceaux pendant qu'on était en studio, et on a fait un album, 10 titres, un peu enregistré à l'arrache, parce que c'était, on faisait avec les moyens de bord, mais on avait un studio qui était avec nous. Et c'était marrant comment ça s'est fait ce premier album. Et puis, par hasard, cet album il s'est retrouvé au Canada, il s'est retrouvé classé dans iTunes au Japon. C'est un album qui est très très folk acoustique. Et c'est vrai que ça a ouvert pas mal d'opportunités. Ça m'a ouvert les portes du milieu du blues. Donc à la suite de ça, beaucoup de concerts au départ en acoustique, des festivals et tout ça. Avant de rencontrer mon équipe et tout ça, quoi. Donc c'était vraiment, c'était super de se dire, généralement quand on fait un premier album, on s'attend pas à ce qu'il y ait des opportunités comme ça qui s'ouvrent. Et je pense que tout s'est fait au bon moment pour nous, donc c'était assez rigolo comment ça s'est fait. Ouais.
Et pendant que tu écrivais toutes ces chansons avec Neil Black, d'où elle te venait l'inspiration en général ?
Ah bah alors, ça parle... L'inspiration, elle vient de tout ce que je vis, en fait, des gens que je rencontre, des choses que je vis, du quotidien, des choses qui nous font rire, des choses qui nous font pleurer. Honnêtement, ouais, ça vient un peu de tout, quoi. Donc, des fois, ça peut être le néant total hein, dans l'aspiration. Hein, s'il se passe pas des choses, des rencontres et tout ça, on a du mal à écrire parce que c'est vrai qu'on se nourrit des gens pour écrire. On se nourrit des choses qu'on vit. Et c'est vrai que ce premier album, c'était mon premier album, donc forcément, j'avais pas mal de choses à dire. Et j'avais une vingtaine d'années et j'avais toute ma vingtaine d'années à sortir en musique de choses que j'avais vécues, des trucs tristes, des trucs plus rigolos. Il y avait même des trucs sur des histoires d'amour, des gens que j'avais même perdus. Et puis des choses qui me marquaient quand je pouvais regarder la télé ou quoi que ce soit avec les infos. Et c'est vrai que ça m'a nourri pour faire ce premier album, en fait, qui était très roots, quoi.
Ton dernier album, Your Journey, qui est sorti en 2021.
Color your dreams with fire, paint what you feel, discover what's real. Life is filled with desire, lost in the way.
depuis ça, tu as écrit d'autres chansons pour un prochain album?
Oui, on travaille dessus parce que Your Journey, c'était notre 4e album. Au mois de mai, on a sorti un live aussi acoustique enregistré à Abbey Road. Et puis, là, bon, c'est vrai qu'il est sorti en 2021 après Covid. C'est un risque hein, pour nous. On s'est dit, allez, on lance parce que les gens ils vont avoir besoin de musique. Donc, on a sorti un album au moment où on pouvait pas faire de concert. Donc, c'était assez hallucinant. Et puis, depuis, on réécrit. Il y a des inspirations. Il y a plein de choses qui ont été écrites. Et puis, bon, qui ont été mises de côté parce qu'il y a des nouvelles choses encore qui arrivent. Et là, on prépare la suite, hein, forcément.
Dans la plupart de tes chansons, on sent qu'il y a un côté très blues par moment et d'autres moments un peu plus rock. Donc j'imagine que c'est dû en partie à tes influences qui sont multiples.
Oui, j'étais hyper influencée par les années 60-70 parce que mes parents, ils écoutaient que ça. Donc quand j'étais petite, je piquais les vinyles et j'allais les écouter dans le salon. Donc tout le monde m'entendait en fait quand je faisais ça. Et j'écoutais, je mettais du Janis Joplin, du Joe Cocker. Ils avaient des vinyles, des Beatles. Il y avait Jimi Hendrix, il y avait tellement de choses à écouter de cette période-là que du coup ouais, c'est vraiment ce qui m'a influencé, même des choses des fois un peu plus pop, des choses plus folk. Et puis aujourd'hui, j'essaye de faire un peu ma sauce musicalement avec toutes les influences que j'adore, quoi.
Et on peut compter Neil Black aussi dans tes influences, Elliot Murphy ou encore Patrick Monda. J'imagine que eux aussi font partie de
travailler que j'ai rencontré au fur et à mesure, parce que c'est des gens avec qui j'ai fait des collaborations. Neil Black, je l'avais rencontré à la même période qu'Eliot Murphy, et Patrick Ronda, je l'ai rencontré quand je travaillais sur les 10 ans de la guitare avec Jean-Félix Lalanne, et ça a été une super rencontre. Et c'est des gens qui sont devenus des amis et avec qui on a fait des collaborations en fait sur les albums. Et j'étais super honorée en fait de pouvoir partager la musique avec ces personnes-là qui sont devenues des amis aujourd'hui, puis qui sont hyper talentueux.
Tu me parles d'amis, justement. Je sais que tu es amie avec Laura Cox.
Oui, on a fait un titre, on a repris un titre qui s'appelle Can't You See de Marshall Tucker Band. Et non, c'était génial. Moi, Laura, c'est ma chouchou, je l'adore. Je l'adore, elle est tellement gentille, elle est tellement talentueuse. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Oh là là, ça date maintenant. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça va faire 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ça passe. Bon, on va pas dire ça parce que ça nous rajeunit pas. Mais ouais, ça fait pas mal d'années. Je crois que je l'ai rencontrée au début de son premier album, quand elle lançait son projet solo. Et c'est une super artiste, c'est une super rencontre, c'est une super femme. Et c'est vraiment une belle personne. Et je suis vraiment très, très heureuse d'avoir partagé ce moment de musique avec elle. Et puis, des fois, ça arrive qu'on se retrouve sur des concerts ensemble. Et puis, c'est comme ça hein, qu'on partage la musique. Hein. La musique, elle est faite pour être partagée et passer des bons moments ensemble. Et puis, de véhiculer des choses. Et puis, surtout, de faire ce qu'on aime tous ensemble, quoi.
Donc, si vous en aviez la possibilité de travailler ensemble sur un titre pour un de vos albums respectifs, ça se ferait sans problème, alors?
Je sais pas. Faut lui demander. Non, mais c'est toujours un plaisir qu'on passe de la musique ensemble, de toute façon. Ticket now, as far as I can.
what that woman she's been doing to me. Can't you see? Can't you see what that woman she's been doing to me?
J'ai vu qu'en 2018, tu avais eu l'occasion de faire la première partie de Ringo Starr. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé et surtout comment tu l'as vécu ce moment ?
Non mais c'est un truc de fou parce que c'était en 2018 et même quand on me pose la question, je suis toujours en train de me dire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? » Je suis en train de me demander si ça a vraiment existé en fait, c'est ça le truc. Non mais c'est complètement dingue parce qu'en fait on reprend, on joue un titre des Beatles, Help, depuis 14 ans maintenant, mais à l'époque ça en faisait 10. Et cette chanson, on l'a jouée tous les soirs au concert. Et puis, notre tourneur travaillait justement avec Ringo Starr. On avait fait plein de premières parties. Et puis, il m'appelle et il me dit « Bon, bah tiens, Gaëlle, pour cette date-là, arrivez telle heure et tout, machin, vous allez faire la première partie de Ringo Starr et tout. » Je me dis « Quoi ?» J'étais là, je fais « Ok, c'est génial, à l'Olympia en plus. » Alors, c'est hallucinant parce que dans une vie de musicien, d'artiste, à aucun moment, pour le style de musique qu'on fait, à aucun moment on s'imagine qu'un jour on va rencontrer un des fondateurs des Beatles, quoi, un Beatles, quoi. Et c'était complètement dingue, et quand on est arrivé, on s'est dit, bon, ça se trouve, on ne croisera pas. Ça jouait sur scène, enfin, on ne joue pas, on fait la balance, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule, et là, je vois Sir Ringo Starr qui vient me dire bonjour, et j'étais là, je fais, qu'est-ce que c'est le délire ? Il me tape sur l'épaule, il me dit, ouais, salut Gaël. Bah moi c'est Ringo Starr, je suis super contente de te rencontrer, et puis c'était filmé, alors il faisait des bouts de vidéo pour un reportage, et puis mon réflexe, la bouche m'en tombe, je regarde à gauche, je regarde à droite, il y avait Michel et Steve avec qui je jouais, et là je les regarde, je vois qu'ils ont la même tête que moi, donc je me dis ok, ce qui se passe c'est réel, et j'ai même pas réussi à dire une phrase, j'avais juste envie de dire mais oh, comment tu connais mon nom en fait. J'étais là, bah, des fois on fait les premières parties, on est en contact avec les managers, les artistes on les voit pas toujours, et il a été super, il s'est installé derrière, du coup on l'a rencontré, et puis on a demandé à son manager si on pouvait jouer notre version des Beatles, notre version de Help des Beatles, et Ringo il a dit oui, pas de souci, je la joue pas ce soir, vous pouvez la jouer, ça va nous faire plaisir, et quand on l'a joué en live ce soir-là, il jouait avec Greg Bissonnette, avec pas mal de musiciens avec qui il était, et ils étaient sur le côté de la scène en train de nous écouter, et j'avais l'impression que c'était la première fois de ma vie que je chantais cette chanson. Et puis dans la salle, il y avait que des gens, dès qu'on mettait la tête à un endroit, il y avait que des gens connus qui étaient dans la salle. Il y avait John Bess qui était là, il était assis juste à côté de ma mère, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'était incroyable, parce que ma mère est fan de John Bess. Et elle était venue parce qu'elle était en tournée en France à ce moment-là, donc elle est venue chanter un titre avec Ringo Starr, mais elle était dans la salle. Et je vois le schéma, moi, de scène, en train de jouer, ma mère qui était assise, je vois John Baez à côté, je me dis, c'est quoi le délire, quoi? Avec la rencontre avec Ringo Starr et Steve qui faisait les percussions avec moi ce soir-là, qui est mon mari, est un grand fan des Beatles, Michel aussi, et c'était fou, c'était démesuré, c'était... c'est, on se dit, dans une vie d'artiste, en plus on était très très indépendant encore musicalement dans ce qu'on faisait, on bossait pas encore avec notre label Vericords et tout ça, mais on bossait beaucoup avec Gérard Roux Productions, et on s'est dit, ouais, mais c'est magique en fait. Jamais dans ma vie j'aurais pensé qu'on aurait pu vivre un truc pareil, et c'était juste génial, quoi. Enfin, je me suis dit, je sais pas combien de temps j'ai mis à m'en remettre, parce que je pense que je m'en suis toujours pas remise, on est en 2024. Donc c'est assez dingue, et je souhaite à tous les artistes indépendants, tous les artistes tout court, de vivre un moment de vie comme ça, parce que cette rencontre, elle a été géniale. Je le souhaite à tout le monde du fond du cœur, parce que c'est tellement enrichissant, et puis c'est des rencontres superbes, parce que c'est des artistes qui ont créé la musique qu'on fait aujourd'hui. Hein. Nous, on n'a rien inventé musicalement, mais les Beatles, ils ont inventé cette pop, hein, qu'on a aujourd'hui. Et de rencontrer des artistes comme ça, c'est hyper enrichissant, parce que c'est des gens, en plus, qui sont hyper bienveillants, hyper sains, qui n'ont pas la grosse tête, qui sont toujours dans la passion et le partage de la musique. Et ça, tu te dis, oh là là, c'est génial, tu sais pourquoi tu aimes ce métier, pourquoi tu aimes la musique. Et quand tu rencontres ces gens-là, j'avoue, je me suis dit, waouh, je peux... Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, tous les rêves sont réalisables, en fait. Il faut pas s'empêcher de rêver grand. Même si des fois, on n'atteint pas les rêves qu'on souhaite, on peut toujours au moins s'en rapprocher. Mais ça arrive pas qu'aux autres. Je me suis rendu compte de ça, en fait. C'est que les belles choses, les choses qui nous font rêver, n'arrivent pas qu'aux autres, en fait. Elles arrivent à tout le monde, et tout le monde le mérite.
Puis c'est le genre d'artistes aussi qui sont très plébiscités en festival. On se les arrache, on se les déchire. Je pense que vous aussi, vous en rêvez comme de faire des festivals comme les Vieilles Charrues, le Hellfest ou des choses, ou même le Main Square ici à Arras. C'est le genre de festival qui vous ferait rêver aussi tous.
Ah mais il y a tout, plein de festivals, des artistes. Moi je sais que quand j'étais jeune, je rêvais de jouer avec Johnny Lang, et c'est le premier rêve que j'ai réalisé. À partir de ce jour-là, je me suis dit, waouh. En fait, tout est possible dans une vie, quoi. Il va falloir qu'on bosse dur, et on va voir, continuer à être passionné par ce qu'on fait. Et c'est vrai que les festivals, oui, il y a plein de trucs super qui nous font rêver, parce qu'on aime, tellement la musique qu'on a envie de la partager partout, en fait, partout, sur des grandes scènes, des petites scènes et tout ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a plein de festivals qui nous font rêver. J'avoue, les Vieilles Charrues, c'est quelque chose, parce que ça reste mythique aussi. C'est ça, en fait, on se dit, quand on passe sur des festivals qui ont des grosses notoriétés, mais qui ont un côté, en fait, historique avec la musique, et qui sont là depuis longtemps, c'est juste génial, quoi.
Oui, puis le Hellfest aussi, j'imagine que ça doit être quelque chose qui fait aussi un petit peu rêver pour toi, ou même le Main Square d'Arras.
Le Main Square d'Arras, alors je saurais plus te dire que c'était quand, mais ça date, j'avais été voir Prince, le concert de Prince. Ouais, alors ça date, hein.
Ça doit être dans le début des années 2010.
Arras, juste pour voir Prince, en me disant, bon, faut au moins que je vois Prince une fois dans ma vie, quoi. Voilà. Mais je crois qu'on vient dans le coin, dans le nord. Alors attends, je suis très mauvaise en géographie. En juin, je crois. Dans le 59.
Oui, j'ai vu ça.
Voilà, à Esquelbecq, au festival La Belle Guitare. Donc voilà, j'invite tous les gens du Nord à venir nous voir. En plus, il y a une super brogue, et là, je suis... Alors, dans un registre qui n'a rien à voir, je suis très, très émue de faire ce festival, parce qu'on joue avec Les Innocents. Et je sais que quand j'étais gamine, c'est un groupe qui m'a vachement accompagnée pendant mon adolescence, et qui était dans un registre de choses complètement différentes de ce que j'écoutais. Et je suis très, très heureuse de jouer avec eux ce jour-là. Attends, il faut que je te donne une date quand même, c'est le 15 juin.
J'en prends note. J'essaierai de faire mon possible pour venir te voir.
Voilà, mais ce sera pas maintenant. C'est le 15 juin qu'on joue au festival La Belle Guitare, à côté de chez vous.
S'il t'était donné la possibilité de ramener à la vie un de tes artistes préférés qui est tragiquement décédé ces dernières années, qui est-ce que tu choisirais pour imaginer, je sais pas, admettons, le temps d'une chanson, ou peut-être même le ramener carrément à la vie pour de bon?
Alors attends, j'en ai trois, faut que j'en choisisse
qu'un. Non, autant que tu veux.
Ah non, mais J'avoue, j'aimerais bien parce que c'est les seuls que j'ai pas vus en live. Bon, il y en a, c'est normal parce que j'étais trop jeune, ils étaient déjà partis. Mais c'est vrai que ce serait Janis Joplin et Freddie Mercury. Dans des registres différents, ouais, vraiment. Joe Cocker, j'ai eu la chance de le voir en live quelques mois avant qu'il décède. Donc, parce que j'étais une grande fan, je suis allée en Allemagne pour pouvoir voir son concert. Et mais sinon, ça serait ouais, Janis Joplin et Freddie Mercury. Freddie Mercury, je me dis, je pense que c'est un des plus beaux concerts dans une vie qui aurait pu exister dans, en termes d'émotion, en termes vocal, en termes de... De ça passe par tout en fait son univers d'opéra qu'il aime avec son univers de rock, de pop, tout ça, et je pense que c'est vraiment Freddie Mercury et Janis Joplin.
Ce qui est incroyable, je remarque, parce que t'es pas la première à me le dire, mais tout le monde, en fait tous ceux que j'ai eu en interview, quasiment en grande partie, même la personne de TikTok, elle m'a dit aussi la même chose. Ah, oui. Vous me parlez tous de Freddie Mercury, et je c'est incroyable parce que bah ça paraît
il
pas.
A marqué des vies entières.
C'est ça.
Non mais tout, il s'est tellement battu pour ce qu'il a fait. Il a un pas. Non mais c'est vraiment, c'était un mec passionné, passionnant, et c'est, j'en ai des frissons quand j'en parle, et ouais, c'est vraiment, c'est un gars qui manque beaucoup à la musique aujourd'hui, parce que c'est un gars qui s'est battu pour sortir des morceaux. Tu vois, son monument Bohemian Rhapsody, sa maison de disque, tout le monde disait, mais attends, mais jamais ça sortira, c'est pourri, c'est pas assez bien, machin. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est la référence de tout le monde, en fait, de beaucoup de gens.
De tout musicien, et même dans le métal, c'est ça qui est impressionnant.
Pour ce qu'il aimait, en fait. Et il faisait toujours les choses sincèrement, et il les faisait, il s'en foutait, il les faisait jusqu'au bout, parce que la musique, c'est ça, en fait, c'est ses tripes qu'on pose sur la table, son cœur, ses émotions. Et ce mec-là, il avait tout, en fait. En plus, la voix, c'était fabuleux, quoi.
Ah oui, bien sûr. Mais c'est incroyable. Même des personnes du monde du métal, parce que j'ai reçu Fiona, Super Tartelette, sur TikTok, qui me parle beaucoup de métal, pourtant. Mais c'est pareil, la question, elle m'a répondu aussi qu'elle voulait Queen, parce que il s'est battu pour sa vie. Il avait la rage de vivre, c'est ce qu'elle m'a dit.
Ouais.
Et c'est vrai.
Ah non, c'est... Il y a son documentaire, il est fabuleux. J'en ai des frissons à en parler, donc je me dis, mince, j'aurais vu un concert. J'aurais pu assister à un concert, je crois que je serais tombée dans les pommes d'émotion, en fait.
Je pense qu'on serait tous comme ça. C'est...
Trop d'une overdose.
Parce que c'était quand même un sacré showman, c'était pas n'importe qui.
Ouais.
Et ça va encore, je trouve que les gens de mon âge, même un petit peu en dessous, quand tu leur dis Queen, généralement, ça réagit quand même. C'est rassurant. C'est rassurant parce que mais on a toujours peur que les artistes comme ça, ils se perdent dans le temps. En fait, on se rend compte que non, ils sont éternels.
Non, 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 c'est vraiment... Il y en a qui ont vraiment marqué l'histoire de la musique. Et si les gens s'intéressent un peu à ça, même si aujourd'hui, la musique est un peu vue d'une façon un peu particulière, puis que les gens écoutent au coup par coup, je pense que c'est des artistes qui seront toujours là. Parce que sans ces artistes-là, sans la musique qu'ils ont faite, il n'y aurait jamais... on n'en serait pas là aujourd'hui, hein. Même avec les choses musicalement qu'on aime moins.
C'est sûr. C'est sûr, parce que en fait, ces artistes-là, c'est la base de tout. C'est la base de tout, et c'est comme dans le style rock, c'est pareil avec Nirvana, parce qu'ils ont lancé aussi pas mal de choses. Et ça aurait été top de voir Cobain sur scène, quoi. C'est pareil, c'est un peu comme ça aussi, je trouve. Enfin, les concernant, en tout cas, ils ont été aussi fondateurs du mouvement punk, au final.
Ouais, mais c'est comme tu vois tous les... tout plein d'artistes qui ont influencé, en fait, de cette façon-là.
C'est ça, parce que si on les enlève, au final, il y a...
Mais tu sais que là, il y avait un documentaire de Martin Scorsese qui avait sorti tout un truc sur les origines du blues. Et en fait, ils avaient interviewé des artistes de hip-hop. Les artistes de hip-hop sont très influencés. Les bases de hip-hop viennent du blues, du blues traditionnel.
C'est ça.
Donc à chaque fois, on revient à la base. C'est le blues.
Tout à fait, bien sûr.
Le rock, c'est toutes ces choses-là, quoi. La musique, à chaque fois, ça tourne. C'est qu'à chaque fois, là, il va y avoir une tendance. Des trucs qui sont électro, des trucs qui sont hyper pop, produits à mort. Des choses qui sont, la techno, les machins. Mais il y a toujours, en fait...
Mais quand tu remontes le filon, t'as toujours le rock ou le blues quelque part derrière, en fait.
Et à un moment donné, ça revient, en fait. C'est un cercle. À chaque fois, il y a la musique. Il y a un truc, on va faire ça parce que ça évolue, machin. Il faut aller vers autre chose. Et à chaque fois, on en revient à la base. C'est comme dans tout, en fait, hein. C'est comme dans la vie en général, comme dans les relations amoureuses, comme dans la vie de tous les jours, ton quotidien. Il y a un moment donné, bah, quand tu fais plein de choses, tu te perds, et bah, tu reviens à la base. Mmh. Voilà, c'est ça, c'est l'essentiel.
Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose pour conclure cette interview ?
Ah bah, je suis très heureuse d'avoir fait cette interview avec toi, de t'avoir rencontré et de découvrir tous les auditeurs aussi de votre radio. Et puis j'espère qu'on se croisera justement le 15 juin avec tous les gens du Nord à ce festival de la belle guitare. Ça me fera plaisir de vous rencontrer en vrai. Voilà.
Bah, je le souhaite aussi très fortement.